الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإخوتي الكرام، ما زلنا مع قراءة ما يتيسر من شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله ورعاه. وقد توقفنا في درسنا الماضي عند باب وجوب صلة الرحم، فاليوم إن شاء الله تعالى معنا باب وجوب صلة الرحم. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفع قال قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك، وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. طيب، est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version, une traduction, non ? Ça. Donc il dit ici l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a intitulé le chapitre 25 du livre Al-Adab al-Mufrad, il dit chapitre concernant l'obligation de la liaison des liens de parenté. Wujub silat al-rahim, l'obligation de lier les liens familiaux, yani. D'accord. Donc il dit, en rapportant le hadith numéro 47, Moussa ibn Ismail nous a rapporté que Damdamu ibn Amr al-Hanafi nous a rapporté que Kulayb ibn Manfa'a nous a rapporté que son grand-père a dit: ô messager d'Allah, avec qui dois-je être bienfaisant? Avec qui dois-je être bienfaisant? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: ta mère et ton père. D'accord? Ta mère et ton père. Et on verra que le waw ici est là le sens de thumma, ta mère puis ton père. Il y a un tartib ici, il y a un ordre en fait. Puis il dit: et ta sœur et ton frère. Ta sœur et ton frère. Wa maulaka, wa maulaka. On verra ce que ça veut dire maula ici dans le hadith, le sens exact de maula, inshallah, dans le sharh du hadith. Yani après cela, c'est-à-dire après eux, la mère, le père, la sœur et le frère. Et puis il dit: haqqun wajib, c'est un droit obligatoire. Wa rahimun mawsoula. ورحمٌ موصول, c'est-à-dire un lien familial qu'il est obligatoire de maintenir. طيب. ثم يقول درجة الحديث. هذا الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. كليب ابن منفعة مجهول الحال. وأخرجه أبو داود في سننه. Donc le hadith, les frères, sa chaîne de transmission, elle est faible. À cause de l'un de ses rapporteurs qui s'appelle Kulayb ibn Manfa'a, qui est Majhoul al-Hal. C'est-à-dire que, bien que l'on connaisse son nom, on ne connaît pas sa fiabilité. On ne sait pas s'il est adl. Hein? Comme vous savez, parmi les conditions de l'authenticité du hadith, il faut que tous les rapporteurs, du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, soient tous adl, udul, des gens fiables, religieusement d'abord, religieusement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont connus pour mentir ou commettre des grands péchés ou persister et demeurer sur des petits péchés. C'est des gens connus pour leur piété, pour leur crainte d'Allah tabarak wa ta'ala. Et bien sûr aussi, le fait qu'ils aient une mémorisation et une transmission de hadith qui est excellente. Hein? Qu'ils aient la capacité de transmettre le hadith qu'ils ont entendu de leur cheikh d'une manière excellente, parfaite presque. Donc s'ils sont connus par exemple pour oublier beaucoup, hein, pour avoir une mauvaise mémorisation, مثلاً, eh bien, il manquera une des conditions d'authenticité du hadith, qui est l'excellente mémorisation, l'excellente transmission du hadith. Tout ça pour dire que lorsque le savant, le muhaddith, le savant du hadith, il dit un tel, il est majhoul al-hal, c'est ni un ta'dil ni un jarh, c'est ni un ta'dil ni un tajrih. Aïk salam wa rahmatullah. Ta'dil, le fait que le savant fasse les éloges de la personne, du rapporteur, en disant par exemple hada ar-rawi thiqa, ce rapporteur il est thiqa, il est fiable, tu peux prendre le hadith de lui. Ou alors, au contraire, il y a ce qu'on appelle le tajrih. Le alim, il va dire, un tel, parmi les rapporteurs, dharif. Dharif. Un tel rapporteur, il est faible. La yukhadu anhu al-hadith. On ne prend pas le hadith. Mais lorsqu'ils disent, majhoul al-hal, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est ni des éloges, ni une critique. C'est uniquement le fait qu'ils ne savent pas en fait son état, son cas, ils ne connaissent pas son cas. Est-ce qu'il est fiable ou ils ne savent pas? Il est inconnu. Le nom, ils connaissent son nom, là ils savent qu'il s'appelle Kulayb ibn Manfa'a, mais ils ne savent pas en fait si on peut ou pas prendre de lui des hadiths, parce qu'il n'y a pas de trace particulière vis-à-vis de lui. Mais malgré ça, ça ne rend pas le hadith valide non plus. Le hadith, on ne pourra pas le prendre tant qu'on n'est pas sûr de la fiabilité de tous les rapporteurs. Taïeb. Donc, le hadith, il est rapporté également par Abu Daoud dans son livre. ثم يقول رجال الإسناد منهم ضمضم ابن عمر الحنافي وهو أبو الأسود لينه أبو الفتح الأزدي قال أبو حاتم شيخ ذكره ابن حبان في ثقاته ثم كليب بن منفعة ذكره ابن حبان في الثقات وجدي هو بكر بن حارث الأدماري أبو المنفعة وقيل اسم جده كليب. Donc là je ne vais pas traduire, le cheikh il a juste donné quelques renseignements, quelques informations sur tous les rapporteurs de ce hadith là. Donc on voit que il y a divergence également sur d'autres rapporteurs tels que Damdam ibn Amr al-Hanafi, que certains, parmi Ibn Hibban par exemple, a rendu thiqa, et d'autres non. Taïb. Quoi qu'il en soit, on va rentrer directement dans la signification des termes du hadith. Ma'ani al-kalimat. Qawluhum, rahimahullah, et qawl al-Bukhari, babun wujubu silat al-rahim. وجود وجوب صلة الرحم الصلة ما معنى الصلة أصلها الوصل أصل كلمة صلة وصل فصلة الرحم أي وصل الرحم صلة الرحم بمعنى وصل الرحم التاء المربوطة في صلة في آخر الكلمة تاء مربوطة عوض عن الواو المحذوفة في وصل فحذفت الواو ووضعت بدلا منها التاء المربوطة دونك il a intitulé l'imam al-Bukhari ce chapitre par l'obligation du maintien des liens de parenté, des liens familiaux. Donc les liens ou le maintien des liens familiaux, en arabe on dit silatu ar-rahimi. Silatu ar-rahimi. D'accord ? Le mot as-sila, l'origine du mot en arabe c'est al-waslu. Al-wasl, la liaison. Hein ? Al-waslu c'est la liaison. نعم. Donc silatul rahim à la base c'est waslu ar-rahim, la liaison des liens familiaux. D'accord? En vérité, donc le à la base c'est un waw qu'il y a au début du mot waslu. Il n'y a pas de terme arbouta. Le waw il a été enlevé et on a mis à la place le terme arbouta à la fin du mot. Il est devenu silatul. Au lieu de waslun. Mais yani, c'est la même origine, ou plutôt, il vient du mot waslun qui veut dire la liaison, hein? La jonction, l'annexion, c'est ça, le waslun. Non. C'est pareil, non? C'est là, c'est là. C'est là. Non. Idan, c'est là. Kinayatun. عن الإحسان إلى الأقربين كلمة صلة تكون كناية عن الإحسان إلى الأقربين والأقربون من ذوي النسب والأصهار ذوي النسب من جهة الأب والأم والأصهار بسبب الزواج الأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والعناية بأحوالهم وإن بعدوا وأساءوا وقطع الرحم ضد ذلك كله. Donc on revient encore une fois sur le terme as-sila. As-sila ici, ce mot as-sila, il peut être utilisé comme une métaphore, une image, pour exprimer al-ihsan, la bienfaisance envers un proche. Donc c'est un mot qui est plus vaste que al-waslu, si on regarde bien. Parce qu'al-waslu, le fait de juste maintenir les liens. D'accord ? Alors que as-sila, c'est plus vaste. Il y a cette idée de bienfaisance, d'être bienfaisant envers la personne. D'accord ? Envers les proches, notamment. Al-aqrabin. Et rentre dans le terme al-aqraboun, les plus proches. D'accord ? Al-aqraboun, c'est le pluriel de al-aqrab. Al-aqrab, le plus proche. As-sadiqu al-aqrab, l'ami le plus proche, mathalan. D'ailleurs ? Donc, rentre dans le terme al-aqraboun, il dit le cheikh,
ذوي النسب والأصهار, ceux qui ont un lien de sang, que ce soit du côté de la mère ou du père, un lien de sang, d'accord. Donc bien sûr les grands-parents, les parents en premier bien sûr, les grands-parents, les enfants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, d'accord. Tous ces gens-là font partie de Dawil Nasab. Mais aussi Dawil Ashar, était le cheikh, ceux qui ont un lien avec toi par rapport au mariage. Par rapport au mariage, les liens, yani, de mariage. Donc lorsque ta fille se marie avec un homme, cet homme rentre dans ce terme-là, Al-Aqrabin, par rapport à toi. D'accord ? Mais bien sûr, chacun a un degré de proximité. Il n'y a pas de doute que celui qui a un lien par le lien du mariage, il est plus éloigné que celui qui a un lien de sang avec toi. C'est normal. Non. Et le jugement, ce n'est pas le même. Ils ont ce droit-là qui est que tu sois bienfaisant envers eux. Vous voyez ? Mais concernant l'obligation du maintien des liens, ce n'est pas le même jugement. Les ulama disent que concernant ceux qui ont un lien de sang, il est obligatoire de maintenir un lien avec eux. Alors que ceux qui n'ont pas un lien de sang, mais ils ont juste un lien de mariage, hein, le mari de ta fille, la femme de ton fils, le mari de ta mère, c'est qui n'est pas ton père, ou la femme de ton père, qui n'est pas ta mère, ils ont un lien avec toi. Donc ils ont... tu es bienfaisant envers eux. Mais ce n'est pas la même obligation. Ce n'est pas obligatoire en vérité. Ce n'est pas obligatoire. Mais si tu le fais, c'est bien, tu es récompensé. Tu vas maintenir les liens avec l'épouse de ton père. Par rapport à ton père. Ce n'est pas par rapport à elle, c'est par rapport à ton père. Pour être bienfaisant envers ton père, eh bien tu vas être bienfaisant envers son épouse. Et tu es récompensé. Vous voyez ? Celui qui est marié, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Son fils, il est obligé de garder un lien avec elle, son vrai fils, son fils de sang. Alors que celui qui est marié avec sa fille, par exemple, il n'est pas obligé, lui. Il n'est pas obligé de lui obéir, par exemple. Il n'est pas obligé. Il est obligé d'obéir à sa mère de sang, à son père de sang. Mais sa belle-mère, il n'est pas obligé, par exemple. S'il le fait, il est récompensé auprès d'Allah Azza wa Jal, parce que c'est une bienfaisance vis-à-vis de son épouse en vérité, par rapport à son épouse, le fait qu'il est gentil avec sa belle-mère, qu'il est gentil avec la belle famille, il est récompensé, alhamdulillah. Et donc les akhraboun, les gens qui sont le plus proches de toi, ils ont ce droit là, hein, qui est le maintien des liens, la gentillesse, la compassion, le fait que tu prennes soin d'eux, que tu demandes après eux comment ils vont, hein, etc. Et ce même s'ils sont loin de toi. Même s'ils sont loin de toi, physiquement, même s'ils habitent loin de chez toi, et même si ce sont des gens qui ont fait du mal, même si ce sont des gens qui ont fait du mal, qui font du mal ou qui désobéissent à Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, il est bienvenu que tu sois bienfaisant envers eux, car ils font partie de tes akraboun. D'accord ? Après, on ne rentre pas dans les exceptions, hein, dans lesquelles où ils sont nuisibles pour toi et ta famille. Là, c'est autre chose. Mais à la base, il est bienvenu d'être bienfaisant envers tous tes proches. T'as-y-t-il ? Et donc, le fait de rompre les liens des parentés, de parenté, eh bien, s'oppose à tout ce qu'on a dit. S'oppose à la gentillesse, la compassion, etc. ثم يقول أمك وأباك أمك وأباك الواو في وأباك بمعنى ثم أمك ثم أباك donc ta mère et ton père. Donc le واو ici, comme on a dit tout à l'heure, il a le sens de ثم, ensuite. Ta mère, ensuite ton père. Donc on a vu déjà dans les hadiths précédents, la mère est là son droit sur toi, le droit de bienfaisance en sa faveur, il est plus grand que le droit de ton père. D'accord ? Le père, il a une autorité, bien sûr, qui est supérieure à celle de la mère, il n'y a pas de doute. Mais le droit de compassion, le droit de tendresse, le droit de gentillesse, le droit d'expression des sentiments de ton amour pour eux, eh bien, il est plus grand pour la mère. Il est plus grand pour la mère. On a vu que cela était dû au fait que elle a porté l'enfant dans son ventre, puis elle a accouché, puis elle a allaité, hein? Donc elle est passée par toutes ces étapes là qui font que son droit, il est trois fois plus grand en vérité que celui du père. C'est pour ça que le sens de waw ici, c'est thumma, ta mère, ensuite ton père. Puis il dit et ta sœur et ton frère, wa maulaka. Donc maula ici, ce mot il peut avoir plusieurs sens, mais dans ce hadith il a le sens de et celui qui est proche de toi, wa qaribuka, wa maulaka wa qaribuka, celui qui est proche de toi, celui qui a un lien de proximité avec toi. C'est-à-dire tous les autres, comme on a dit, les grands-parents, les enfants, les frères, les sœurs, etc. Non. Donc c'est un droit qui est obligatoire et un lien qu'il est obligatoire de maintenir et qu'il est interdit de rompre. Bon. Qu'est-ce qu'on tire du hadith ? ما يؤخذ من الحديث أولا بيان أن إكرام ذوي القرابة ليس على درجة واحدة بل درجاتهم مختلفة ويراعى أيضا ترتيب الحقوق ووضعها في مواضعها فهذا هو الأصل والعدل. Qu'est-ce qu'on tire du hadith? Deux choses. Premièrement, la bienfaisance, l'honorification, le fait que tu honores ceux qui ont une qaraba, une proximité avec toi, eh bien, n'est pas la même pour toutes les personnes. Encore une fois. Au contraire, chaque personne a un degré, hein, propre à lui. Bien sûr, la mère, on a dit, son degré est plus grand que celui du père, et le père, son degré est plus grand que celui du frère ou de la sœur. Par rapport à la bienfaisance. Vous voyez ? Et on a dit que ceux qui avaient un lien de sang, leur droit sur toi est plus grand que celui qui n'ont pas de lien de sang, mais juste un lien lié au mariage. Vous voyez ? Donc on doit faire attention à tout ça et ne pas mettre en priorité, par exemple, l'épouse avant les parents. Par exemple. Comme font certains, qu'Allah nous guide et les guide, ou qui font passer par exemple les enfants avant les parents. Non. Les parents, ils passent avant. Ils passent avant ton épouse, ils passent avant tes enfants. Ça y est ? Non. Après, il y a toujours des exceptions, bien sûr. Mathalan, la femme qui est mariée, d'accord ? et son mari lui demande quelque chose, lui ordonne quelque chose qui s'oppose à l'ordre de ses parents à elle, comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait passer en premier? Son mari ou ses parents dans ce cas-là? Hein? Son mari. Là, c'est pas pareil. Vous voyez? Là, c'est une exception de ce qu'on a dit. Là, c'est pas pareil. Parce que le droit du mari, il est plus grand là, dans ce cas-là. Bien sûr, elle doit tout faire pour essayer de les mettre d'accord tous ensemble. Mais si elle n'arrive pas, eh bien, c'est son mari qu'elle doit suivre en premier. Vous voyez? Il faut faire attention donc à tout ça, à toutes ces priorités qu'on doit connaître afin qu'on soit juste et qu'on donne le droit à chaque personne et le droit qu'elle mérite. ثانياً الوصية لكل امرئ أن يقوم بالإحسان إلى جميع الأقارب على حسب التوجيه النبوي الأقرب فالأقرب كما وصانا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. Deuxièmement, la recommandation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour chaque individu, yani de faire des bonnes actions, d'être bienveillant, d'être bienfaisant envers tous les proches, hein, comme on l'a dit, proportionnellement en fonction de chaque personne considérée, hein, al-aqrabu fal-aqrab, puis le plus proche, et ainsi de suite. D'accord ? Comme nous l'a recommandé An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقول قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قال أبو هريرة لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين سورة الشعراء قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى قام فنادى يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها سأبلها ببلالها. طيب. Donc on passe au hadith numéro 48. Il dit l'imam al-Bukhari, Moussa ibn Ismail nous a dit que Abu Awana nous a dit, selon Abd al-Malik ibn Umayr, selon Moussa ibn Talha, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qui a dit, lorsque ce verset a été descendu, ou est descendu, la parole d'Allah dans Surat al-Shu'ara, dans le sens rapproché, et avertit les gens les plus proches de toi, et avertit ta tribu ou les gens de ta tribu les plus proches. Ça y est. Donc lorsque ce verset-là a été descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est empressé de sortir, de se lever et d'appeler. Il a appelé, il a dit: oh tribu de Ka'b ibn Lu'ay, yani les descendants de Ka'b ibn Lu'ay. Et Ka'b ibn Lu'ay fait partie des grands-pères de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauvez vos personnes de l'enfer. Ô tribu d'Abd Manaf, sauvez vos personnes de l'enfer. Ô tribu de Hashim, sauvez vos personnes de l'enfer. Ô tribu d'Abdel Muttalib, sauvez vos personnes de l'enfer. Donc Abdel Muttalib, c'est son premier grand-père. D'accord ? Puis il dit, ô Fatima, fille de Muhammad, donc sa propre fille. Il lui dit, sauve ton âme, sauve ta personne du feu de l'enfer, car je ne peux rien pour toi contre le châtiment d'Allah. Dans le sens du hadith. Je ne peux rien pour toi contre le châtiment d'Allah. Sauf que vous avez un lien de parenté avec moi. Sa'abulluha bibilaliha. On verra ce que ça veut dire. Mais si je traduis littéralement, ça veut dire, vous avez un lien de parenté avec moi que je vais arroser, que je vais arroser, sa'abulluha. D'accord ? Donc, balla, c'est arroser, humidifier quelque chose. Bibilaliha. Avec son eau. Que je vais humidifier avec son eau. Donc le terme Bilal, l'ism Bilal, tu savais ça Bilal? Tu savais pas? Donc El Bilal, on peut dire aussi El Balal, avec Fetha. El Balal ou El Bilal. Taïb, c'est le pluriel de Balal. Balal. Le pluriel c'est Bilal ou Balal. Comme Jamal et Jimal. Un chameau, des chameaux, Jimal. Qu'on pourrait traduire par la rosée du matin. Vous voyez la rosée du matin? L'eau qu'il y a sur les fleurs et les herbes, les gouttes, le matin ou des fois le soir aussi. En arabe, on dit « el-balen ». Au pluriel, « el-bilen ». La rosée du matin. Malambarak. Voilà, bien sûr, c'est une image. C'est une image, on va comprendre pourquoi il a utilisé cette image-là et qu'est-ce qu'elle veut dire en arabe. Taïeb. إذن درجة الحديث صحيح الحديث أخرجه مسلم في صحيح وأخرج البخاري نحوه في الصحيح donc le hadith bihamdillah il est authentique et il a été rapporté par l'imam muslim et également al-Bukhari dans son autre livre de hadith authentique qui est al-Sahih. طيب إذن رجال الإسناد منهم أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله أحد الأعلام الثقات ثقة ثبت حجة. Donc on a parmi les rapporteurs de ce hadith Abu Awana qui s'appelle Al-Wadda' ibn Abdillah. Al-Wadda' ibn Abdillah qui fait partie des plus grands rapporteurs de hadith. D'accord? Donc là on voit très bien que l'imam al-Bukhari ici fait les éloges du rapporteur ici. Quand tu entends thiqatun thabtun hujja, là c'est un degré qui est assez grand quand même au niveau de la fiabilité. C'est un degré qui est assez grand parce que même au niveau de ta'dil et tajrih, il y a des degrés aussi. Il y a des degrés. Les savants qui ont dit qu'il y avait en tout 12 degrés. D'accord, 12 degrés. On a 12 degrés dans le 6 degrés pardon, dans le tajrih et 6 degrés dans le ta'dil, dans les éloges. Quand un muhaddith, un savant du hadith, il dit un tel, il est kadhab. Kadhab, c'est pas comme s'il disait à un tel hada layyin مثلا, layyin. C'est pas pareil. Celui qui est layyin, il est faible. Mais il a un degré de faiblesse qui est moindre que l'autre qui est kadhab. L'autre c'est un menteur, carrément. Il a traité de menteur. D'accord ? Et le hadith de celui qui est layyin, maintenant, il se peut qu'on le prenne s'il y a d'autres hadiths qui viennent l'appuyer, le confirmer. Alors que le hadith qui est kadhab, de celui qui est kadhab, lui en aucun cas, on pourra le fortifier ou... C'est impossible. Et également chez ceux sur qui on fait les éloges des muhaddithun, les savants des hadiths, ils ne sont pas tous au même degré. Celui sur qui on a dit, comme ici, thiqatun, thabtun, hujja, ahad al-a'lam al-thiqat, c'est un haut degré de ta'dil, d'éloge. Alors que celui sur qui on a dit Sadouq, c'est un degré qui est inférieur. Sadouq, c'est quelqu'un qui est véridique, mais ce n'est pas le même degré que Thiqa, Thabt, Hujja, etc. طيب ومنهم موسى ابن طلحة ابن عبيد الله ثقة كثير الحديث لي aussi donc il dit le cheikh l'imam Bukhari ثقة fiable كثير الحديث c'est-à-dire qu'il a rapporté beaucoup de hadith الحمد لله معاني الكلمات قال أبو هريرة لما نزلت هذه الآية وهي عامة في من آمن ومن لم يؤمن donc il dit ici la parole d'Abu Huraira quand est descendu ce verset donc le verset on a vu verset 214 surat Shu'ara et avertit les gens les plus proches parmi ta tribu d'accord parmi tes ta famille d'accord ceux qui ont un lien avec son grand-père son arrière-grand-père etc. etc. donc ici il dit les cheikhs Allah Ta'ala, que Allah Jalla wa Ala lui a ordonné d'avertir pas les croyants seulement mais aussi les kuffars bien sûr donc là Allah Jalla wa Ala lui a demandé d'avertir al-mu'minun ceux qui ont cru en lui et ceux qui n'ont pas cru en lui donc tout le monde est concerné par le verset ici lamma nazalat hadhihi al-aya وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوله قام النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على مصارعته صلى الله عليه وسلم لامتثال أوامر القرآن الكريم et lorsque Abu Huraira il dit qu'à Allah ou quand le verset a été descendu le prophète s'est levé قام النبي صلى الله عليه وسلم tout de suite juste après la révélation du verset il s'est levé pour aller avertir donc ça nous montre ici l'empressement de Nabi صلى الله عليه وسلم à obéir au commandement d'Allah تبارك وتعالى il n'a pas attendu pour obéir à Allah جل وعلا انقذوا يقول يعني خلصوا وتداركوا واخرجوا Donc, « anqidhu », il veut dire « khallisu »,« sauvez-vous » ou « sauvez vos personnes ».« Tadaraku », »,« éloignez vos personnes de l'enfer ». « Wa akhrijou », »,« faites en sorte de sortir de l'enfer ». D'accord ? Ça, c'est le terme « anqidhu ». « Wa kadhalik fi riwaya »,« inda al-nasai »,« qala sallallahu alayhi wa sallam »,« ishtaru anfusakum min Allah »,« ishtaru anfusakum min Allah ». لا أغني عنكم من الله شيئا وكذلك فيه يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا طيب وكانت صفية عمته صلى الله عليه وسلم وهي كانت أم الزبير بن العوام طيب نعم والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنذر أقاربه عليه الصلاة والسلام on a dans d'autres versions notamment dans celle de An-Nasa'i رحمه الله dans laquelle il dit اشتروا أنفسكم اشتروا Ça veut dire sauver, acheter vos âmes à Allah. C'est-à-dire sauver vos âmes. Car je ne peux rien contre le châtiment d'Allah pour vous. Et il a dit aussi à sa tante. D'accord ? À sa tante, la sœur de l'Abbas, qui s'appelait Safiya. Il a dit, « Oh Safiya, tante du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux rien pour toi. » contre le châtiment d'Allah وهذا مقتبس من قوله جل وعلا في سورة الفتح قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة سيشفع وتقبل شفاعته قطعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هنا أن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة كما جاء في الحديث في حديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، أي بشرط التوحيد الخالص لا تكون في شائبة الشرك، شائبة الشرك. نعم. والحديث قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، ثم يقول أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. نعم. Et la parole, lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ô tribu d'un tel, ô Fatima, ô Safiya, je ne peux rien pour vous contre le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette parole-là, elle est tirée en vérité d'un verset d'Allah qui est dans la sourate Al-Fath, où Allah jalla wa ala, dans le sens rapproché du verset, il dit, dit فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا qui peut faire quelque chose pour vous contre le châtiment d'Allah in arada bikum darran s'il veut pour vous un mal ou arada bikum naf'an ou s'il veut pour vous un bien aussi qui peut s'interposer entre vous et Allah tabarak wa ta'ala. Hein? Même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, vous savez aussi que le prophète Allah Jalla wa'ala va lui permettre d'intercéder. Le jour du jugement, il va intercéder pour les croyants. Et on sait que son intercession sera acceptée. On est sûr de ça, qu'Allah va accepter son intercession, alhamdulillah. Vous voyez ? Mais Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, nous apprend ici, que celui qui pourra profiter de son intercession yawm al-qiyamah, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est celui qui a dit la ilaha illallah avec une sincérité exclusive à Allah jalla wa ala, pure. Hein? Avec son cœur. Comme il a été rapporté dans le hadith Abi Huraira que vous connaissez. Parce qu'Abu Huraira a posé la question à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qui est-ce qui sera le plus heureux parmi le plus heureux parmi ceux qui vont profiter de ton intercession yawm al-qiyamah. Et là le prophète doit lui répondre ya Abu Huraira, je savais que personne ne me poserait cette question là avant toi, je m'y attendais de ce que je connais de toi, hein, de ton désir de connaître le hadith. Il lui a dit donc As'ad al-Nas, celui qui sera le plus heureux de mon intercession yawm al-qiyamah, c'est celui qui dit ou qui a dit la ilaha illallah khalisan min qibal an-nafs, avec une sincérité pure avec son cœur. D'accord. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc ça nous montre que pour que tu puisses profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a cette condition là qui est que tu sois mort sur tawhid al-khalis, le monothéisme pur exclusif à Allah jalla wa ala, dénué de toute impureté d'association, dénué de toute impureté d'association. Aïna. Quelqu'un de normal, c'est-à-dire en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il y aura d'autres créatures qui vont intercéder. Parmi les croyants, certains pourront intercéder. C'est Allah qui décide. Allah décidera ce jour-là. Parmi les conditions de Shafa'a, pour que la personne puisse intercéder, premièrement, qu'Allah Jalla wa Ala soit satisfait de lui. D'accord ? C'est-à-dire qu'il soit mort sur le tawhid. Et celui pour qui on intercède aussi, qu'il soit mort sur le tawhid. Et bien sûr, avec la permission d'Allah Tabaraka Ta'ala. Donc, non, il n'y a pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. C'est bon, les frères ? ثم يقول فإني لا أملك لك أي يا فاطمة إني لا أملك لك أي إن أراد الله أن يعذبك فلا طاقة لي أن أنقذك فلا تتكلي على قرابتي. Donc il dit à sa fille Fatima, je ne peux rien pour toi, ya Fatima. Si Allah Jalla wa Ala veut te punir, je n'ai pas la capacité de te sauver. Donc ne compte pas sur ma qaraba. Ne compte pas sur le lien que tu as avec moi. Ne compte pas sur le fait que tu sois ma fille. Si Allah il veut te châtier, il te châtiera. Je ne pourrai rien contre toi. Pour toi, pardon. Voyez. ثم يقول سأبلها ببلالها. سأبلها ببلالها. البلال أو البلال بالكسر والفتح. والكسر أوجه. أي بالكسر أجمل وأحسن. بلال. وهو جمع بلال كما قلنا أي أصلكم في الدنيا بمعنى أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئا واستعير البلال للوصل كما أن اليبس أو اليبس يستعمل للقطيعة. Donc il dit ici سأبلها ببلالها. C'est-à-dire, je vais l'humidifier, hein, littéralement, je vais mouiller, je vais l'humidifier avec des gouttes, avec de l'eau, avec l'humidité, ou avec la rosée. Donc, on a dit avec la fatha ou la kasra. On peut dire bilal, on peut dire balal aussi. Balal. Mais avec la kasra, c'est mieux, d'accord, c'est plus éloquent, c'est plus beau, Bilal. Et donc c'est le pluriel de Bilal. D'ailleurs, donc lorsqu'il dit en fait Sa'abulluha, je vais l'humidifier, je vais le mouiller, eh bien ça a le sens de je vais lier les liens de parenté que j'ai avec vous. Je vais être bienfaisant avec vous, fi dunya. C'est-à-dire, je ne vais pas rompre les liens que j'ai avec vous. Je ne vais pas les rompre. D'accord ? Mais je ne peux rien pour vous contre Allah. Je ne pourrai rien pour vous contre le châtiment d'Allah, la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais malgré ça, je vais continuer quand même, fi dunya, à maintenir ce lien que j'ai avec vous. Donc il dit, fastu'ir al-bilalu lil-wasla. Donc al-bilal, ces gouttes-là, cette humidité-là, hein, c'est une métaphore en fait qui représente al-wasla, la liaison, le maintien des liens. Donc en arabe, de manière métaphorique, on peut utiliser l'expression al-bilal ou le verbe balla, yabullo, pour dire je maintiens les liens avec un tel ou un tel. Comme al-yabs ou al-yabas, c'est quoi al-yabs? C'est le contraire de al-balal, c'est-à-dire la sécheresse, quelque chose de sec qui pourra être utilisé pour exprimer al-qati'a, la rupture. D'accord? Al-qati'a. كما قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى قال شبه الرحم شبه الرحم بالأرض شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم بالأرض التي إذا وقع عليها الماء إذا وقع على الأرض ماء وسقيت حق السقي أزهرت الأرض ورؤيت فيها النضارة وأثمرت المحبة والصفاء وإذا تركت بغير سقي ماذا يبست وبطل نفعها ولا تثمر إلا البغضاء والجفاء. إذن المعنى أي أصل القرابة بالقرابة. Il dit l'imam al-Tibi, rahimahullah ta'ala, comme il a rapporté Fadullah al-Jailani, rahimahullah, il dit, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé al-Rahim, donc le lien familial, avec la terre. Avec son expression là, je vais l'humidifier, je vais le mouiller, je vais l'arroser. Donc, c'est comme s'il comparait al-Rahim, le lien de parenté, avec la terre. Cette terre, lorsque de l'eau tombe sur elle, l'eau de la pluie tombe sur elle, et qu'elle est arrosée d'une bonne manière, correctement, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, elle va donner des fleurs, des plantes, des arbres qui vont pousser. Elle va devenir belle, fleurie, verte. Elle va donner naissance ainsi à l'amour entre les personnes, l'affection entre les membres de la même famille, ainsi que la sincérité et la véracité dans les relations familiales. Voyez ? Là, on voit le lien métaphorique entre les deux actions. Lorsque toi, tu arroses la terre, eh bien, les plantes poussent, les herbes, les arbres, les fruits, les fleurs, eh bien, c'est pareil. Lorsque tu arroses les liens familiaux, eh bien, tu fais pousser l'amour, tu fais pousser l'affection, tu resserres les liens en faisant ça. D'accord ? Et à l'inverse, lorsque tu laisses la terre sèche, sans l'arroser, sans prendre soin de la terre, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devenir sèche, dure, aride. Comme les relations familiales, pareil. Lorsque toi, tu ne maintiens pas les liens de parenté, lorsque tu ne prends pas de nouvelles des proches parmi ta famille, les relations vont se détériorer. Elles vont se détériorer et va naître même la haine entre les gens. Naam. Ça, on l'a. Je pense que vous l'avez tous vu et vécu, Allahu A'lam, lorsque un tel ne prend pas des nouvelles avec toi, lorsque ton frère ou ta sœur ne t'appelle pas pendant des mois et des mois et des mois, est-ce que tu le prends bien? Hein? Tu le prends mal, surtout lorsque c'est ton petit frère ou ta petite sœur. Tu te dis, non, c'est à lui de m'appeler, c'est pas à moi de l'appeler, c'est lui qui doit m'appeler, prendre de mes nouvelles. T'appelles pas pendant 6 mois, 1 an. Dans ton cœur va naître un sentiment à son égard. Un sentiment de, peut-être de haine, d'animosité envers lui. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas arrosé. Il n'a pas arrosé le champ, la terre, des liens familiaux. Donc la terre, elle est devenue sèche, dure. Rien ne pousse. Ce n'est el-jafa. Et c'est pour ça qu'el-jafa peut vouloir dire, le terme el-jafa, peut vouloir dire le côté sec d'une terre, el-jafa, mais il peut vouloir exprimer aussi la haine qu'il y a entre deux personnes, el-jafa, l'éloignement entre deux personnes. Tu dis, baynahuma jafa. Entre les deux, là, il y a un éloignement. D'accord ? Donc on voit, encore une fois, le lien entre tout ce qui est lié au lexique de la terre ainsi que celui de, des liens familiaux. Non. C'est clair. ثم يقول الرحيم ما معنى الرحيم أو ما المراد بالرحيم من يمت إليهم بصلة من جهة الأبوة أو الأمومة فكل قريب للشخص يعتبر رحما له من جهة أبيه أو من جهة أمه ذاك الرحم لترم الرحم ce qui est voulu ici par ce mot-là, c'est tous ceux qui ont un lien avec toi, un lien familial, que ce soit du côté de ton père, de ta mère. Eh bien, ils font partie de Ar-Rahim pour toi. Donc tous ceux qui sont proches de la personne, du côté de la mère ou du père, ils rentrent dans ce terme-là qui est Ar-Rahim. طيب نعم فالصلة للرحم تكون بأنواع تكون أولا يقول الشيخ بتعليم العلم بتعليم العلم وذلك عند قدرة الواصل على التعليم يعني حسب قدرته على التعليم وحاجة الموصول من الأرحام إلى التعليم وهو خير ما يصل الإنسان به رحمة أي قرابة. Donc, quelles sont les différentes manières d'être bienfaisant, d'être bienfaisant envers ces proches-là qui ont un lien familial avec toi? Comment ça va s'exprimer ça, chez toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Par exemple, on a vu les conseils dans le cours dernier, les conseils pour l'enfant vis-à-vis de ses parents. On en a vu combien? 28. Ahsant. Ne pas s'asseoir avant lui, ne pas marcher à côté de lui ou devant lui, ne pas hausser le ton, ne pas lui reprocher des choses, ne pas t'allonger quand ton père il est assis, ne pas t'asseoir au-dessus de lui alors qu'il est en dessous, lui obéir dans toute chose tant que ce n'est pas un péché. D'accord? Mais c'est quoi la chose la plus importante dans tout ça? Il dit premièrement, la chose la plus importante, c'est lui enseigner la science religieuse. lui enseigner le savoir religieux. Un homme ne dit pas non, je suis plus jeune, je lui dis rien, je le laisse. Non, ne le laisse pas, apprends-lui. Tawhid avant tout. Tawhid. Tu as appris quelques hadiths avec explication de là, appelle-le. Fais-le d'abord. On va essayer de parler de
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Donc la première chose, comme on a dit, le fait d'enseigner à tes proches l'ilm, la science bénéfique. Donc ce n'est pas exclusif aux parents. Là on parle de Rahim, donc on parle de toutes les personnes qui ont un lien familial avec toi, du côté du père ou de la mère. D'accord ? Donc ton frère, ta sœur, ton neveu, ta nièce, tes cousins, ils ont un droit sur toi. Ils ont un droit sur le fait que tu dois leur transmettre ce que tu sais et qu'eux ne savent pas. Ça, c'est la première des choses. Bien sûr, pour ceux qui sont capables, hein, qui sont capables, qui ont la capacité d'enseigner et de transmettre. Et en fonction aussi du besoin des proches d'apprendre. Ça y est ? Donc chacun, tu regardes en fonction de son besoin et en fonction de tes capacités, bien sûr. Donc c'est la meilleure des choses que tu peux offrir à tes proches. Thumma wasluhu bil mal. Al mal. عند القدرة من الواصل وعند الحاجة من الموصول كذلك. Deuxièmement, les aider financièrement. Leur faire parvenir de l'argent ou du matériel, ou des biens. Donc là aussi, c'est en fonction de tes capacités et en fonction du besoin de tes proches. D'accord ? ثم وصله بالأقدام. وصله بالأقدام. أي بزيارة. وبالمخاطبات والمكاتبات عند عدم القدرة على الوصول بالأقدام لا سيما في هذا الزمن بالوسائل الحديثة كالهاتف مثلا فإنه قد يستطيع أن يصل الإنسان رحمه ويسأل عن أحواله وإن تأخر في الوصول اعتذر إليه. نعم.
Puis dit, troisième façon de, d'être bienfaisant envers les proches, leur rendre visite. Yani aller jusqu'à eux en te déplaçant. Et si tu ne peux pas te déplacer, eh bien en leur écrivant des messages, des lettres, par exemple, ou en les appelant au téléphone. Donc aujourd'hui, bihamdillah, ces choses-là nous sont vraiment faciles. Téléphone, internet, hein, WhatsApp, Viber et autres. Donc la personne, elle est capable de lier ces liens-là et de demander après sa famille, sans se déplacer, de manière très rapide et très facile, juste en décrochant le téléphone ou en envoyant même un texto, un message écrit de temps en temps à ta famille. Surtout ceux qui habitent loin et que tu ne peux pas visiter. Maintenant, ceux qui habitent dans ta ville, tu dois aller vers eux. Visite-les de temps en temps, tu les visites. Mais ceux qui habitent dans une autre région éloignée ou un pays autre que le tien, appelle-les par téléphone, envoie-leur des messages, appelle-les par visio, qu'ils puissent te voir et que tu puisses les voir. Ça entretient les liens comme ça. Et comme on a dit, c'est comme si tu arrosais donc le champ, hein, ou la terre de ces liens de parenté. Cela va faire naître, hein, l'amour et l'affection entre vous. Et si tu ne peux pas leur rendre visite, eh bien tu t'excuses. D'accord ? Tu t'excuses, tu leur demandes pardon. Et, Inch'Allah, tu leur dis que tu vas essayer de leur rendre visite quand tu pourras, bi'idhnillahi azza wa jal. Fa naktafi bi'hada bi'idhnillah. Wa nawasil al-asbu'a al-qadim, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحسن الله إليكم على حسن استماعكم